Sud Radio, il est 3h. Parlons vrai.
Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
C'est une aise de lui-même. Ça peut prêter à sourire, mais c'est aussi l'ingérence du Kremlin.
Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con.
Nous sommes en guerre.
Et nous le resterons, hein, en guerre. En tout cas pour le moment, hélas. Et nous sommes en guerre à tout niveau, même au niveau des chiffres et des lettres. Comment les chiffres et les lettres? Oui, cette émission a commencé en 1965, l'ORTF, elle s'arrête, après tout, hein, nos autres émissions, nous savons que nous sommes mortels, mais qu'est-ce que ça veut dire? On va en parler avec Bernard Cerchidini, professeur de l'Université de Paris, membre de l'Académie royale de Belgique et linguiste, amoureux de la langue. Et pourquoi, effectivement, et combien d'émissions restent là-dessus. Et puis, on va parler d'un livre, nous les avions reçus il y a 15 jours, il y a 2 semaines très exactement, à Berkov dans tous ses états, et ça a été absolument le tsunami de réactions. Transmania, l'essai de Dora Mouton et de Marguerite Stern, fait beaucoup, beaucoup de bruit, et pas seulement, et alors, ça provoque des réactions, mais tous azimuts. Il y a eu encore des manifestations hier, pas seulement sur le livre, mais sur le projet de loi de DLR, etc. Qu'est-ce qui se passe sur le plan LGBTQI, transphobie, disent les uns, absolument pas, disent les autres, scandale d'État. On en parle avec Dora Mouton et Marguerite Stern. Transmedia. Et puis évidemment, les perles, Valérie Ayer, magnifique. Elle se surpasse en ce moment et elle a raison. Et puis, les Restos du Cœur. Est-ce que c'est encore le cœur quand on entend qu'une certaine colombe a été évincée, bénévole, le Resto du Cœur a été évincée. Et puis le reste, évidemment, la Galerie des Glaces à toute Versailles, après le Louvre, après etc. Allez, on pollue les endroits au nom de la sûreté et de la protection de la planète. Et enfin, en dernière partie d'émission, nous allons recevoir Jean-Lucas, un rebelle à la DST, 15 ans de protection de sécurité du territoire, avec des histoires quand même assez croquignolesques, c'est le moins que l'on puisse dire. Attachez vos ceintures, on part.
Sud Radio Montpellier.
104.7.
Sud Radio.
force de nos amours. Je garderai la blessure au fond de moi, tout au fond, mais au-dessus, je te jure que j'effacerai ton nom.
De vêtements qui respectent votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et les chiffres sont-ils dans tous leurs états? Les lettres sont-elles dans tous leurs états? On en parle des chiffres, si ce n'est pas pour les trafiquer. On en parle des lettres, si ce n'est pas pour en fumer. Des chiffres et des lettres, ça traduit quoi? On en parle.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Et qui d'entre vous n'a pas entendu ce générique? Pendant les années 80, c'était ça, c'était le générique de l'émission, l'une des émissions les plus populaires de la télévision française, des chiffres et des lettres. Je rappelle d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est le plus ancien jeu télévisé de France. Il est né, c'est en 1965, ça veut dire presque 60 ans. ORTF, année de l'ORTF, hein. Et voilà. Et puis aujourd'hui, il disparaît. Bon, eh bien, écoutez, hein, les êtres naissent et meurent, et les émissions aussi. Simplement, on peut se demander si cette émission, qui parlait effectivement de chiffres et de lettres, comme son nom l'indique, et qui parlait aussi d'orthographe, bien sûr, parce qu'il fallait, quand on choisissait les mots, les orthographier selon le Larousse, le divin Larousse, et puis le petit Robert, et puis tous les autres. Bernard Cerchilini, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes professeur à l'Université de Paris, professeur émérite, vous êtes membre de l'Académie royale, et surtout, vous êtes linguiste. On vous avait reçu pour ce livre merveilleux avec Eric Orsena sur justement les mots émigrés, les mots émissaires, etc. Et je crois que vous avez, Bernard Cerchilini, il faut le rappeler, l'une des dernières émissions, sinon la dernière, à la télévision française. Ou la télévision, oui, à la télévision française, sur TV5.
Eh bien écoutez, je crains de faire la dernière émission consacrée à la langue française dans la télévision publique, pas française en l'occurrence, mais francophone, puisqu'il s'agit de TV5 Monde, une émission quotidienne de 2 minutes intitulée « Merci professeur, je réponds à des questions d'orthographe, de langue, de lexique, ainsi de suite ».
Eh bien écoutez, voilà, vous êtes le dernier des Mohicans, c'est bien, j'espère que vous le serez encore longtemps. Mais dites-moi, qu'est-ce que ça traduit, au-delà des... cette histoire des chiffres et des lettres, moi ce qui m'a absolument étonné, et d'ailleurs je ne suis pas le seul, c'est qu'on se dit, mais il n'y a plus, attends, les télévisions françaises, il y a la télévision de service public, hein, on parle de service public, il n'y aurait pas de la place pour une émission parlant d'orthographe et de mots. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous a fait sentir?
Écoutez, bien sûr qu'il y a de la place pour une émission, mais j'ajouterais qu'il doit y avoir une émission. Regardez, ouais. 60 ans de succès pour une émission consacrée à ce qu'on appelait sous Jules Ferry, lire, écrire, les lettres, compter, les chiffres. 60 ans d'émissions liées à l'enseignement de base de ce que nous avons acquis à l'école. 60 ans d'émissions consacrées à ce qui nous fonde et nous unit, c'est-à-dire la langue française. 60 ans de jeu sur le mot, sur l'orthographe. Cela traduit le rôle de la langue dans notre nation, dans notre façon d'être ensemble, et surtout l'amour de la langue. Il faut qu'il y ait des émissions sur la langue française, et la preuve, c'est, je dis ça sans vanité, elles ont beaucoup de succès, elles durent longtemps, la mienne a 15 ans, et j'arrive à la, au nombre de 1730 émissions, elles sont suivies.
Et oui, elles ont une vie et on voit bien. Et ce qui est étonnant, c'est que on n'a pas. Alors on a dit oui, c'est passé pendant. Alors ça a été pendant des années. Elle était quotidienne. Ensuite, c'est passé le week-end. Ensuite, on dit. Alors on voit bien le directeur des programmes dit un peu gêné. Oui, c'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ça ne rencontrait pas l'audience. Mais une chose quand même, Bernard Cerchilini, faut quand même rappeler que le service public que nous subventionnons par nos impôts, etc., c'est justement pour dire nous échappons à la tyrannie, enfin la tyrannie, en tout cas, à la priorité de l'audience, c'est un service public. Et qu'est-ce qui est plus service public que l'apprentissage de l'orthographe, que la connaissance de la langue et de l'orthographe, comme vous dites? On a tous joué au Scrabble, hein, et on continue à jouer au Scrabble, c'est un peu ça aussi. Et comment vous expliquez quand même cette espèce, parce que c'est général, il n'y a pas quand même qu'à la télévision, on voit très très bien, on en parle, du pédagogisme, de la diminution, si vous voulez, de la connaissance des mots, on dit maintenant c'est devenu presque basique, alors n'exagérons pas, mais quand même, il y a incontestablement une espèce de, je dirais pas d'effondrement, mais de réduction, de givaroïsation des mots. Ça traduit quoi, ça, selon vous ?
Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. D'abord, répondre à la demande, c'est faire du commerce. Éclairer la demande, c'est le rôle du service public. Et ouais. Donc, le service public doit proposer des émissions. En ce qui me concerne, je rends hommage à Jean-Jacques Ayagon, qui à l'époque était le PDG de TV5 France, qui m'a reçu un jour et qui m'a dit « Il faut qu'il y ait sur TV5 une émission de langue française. Ouais. Tu vas le faire. » Bah, d'accord. Très bien. Donc, je crois qu'il faut service public. Or, étant donné le rôle de la langue dans notre société, dans notre nation, étant donné les besoins en orthographe, car, et là je réponds à la deuxième partie de votre intervention, il y a en effet moins de respect de l'orthographe, c'est clair, oui. Mais toujours autant de besoins. Cher André, on n'a jamais autant écrit le français depuis qu'il s'est détaché du latin au 9e siècle. Oui. On n'a jamais autant besoin de lire et écrire. Et, au 19e siècle, on a appris à lire et écrire à tous les petits français, mais tous les petits français n'utilisaient pas l'écrit. Tout le monde, maintenant, doit écrire, doit lire. Et donc, c'est une sorte de paradoxe, c'est qu'il faut continuer à enseigner une orthographe pour laquelle les gens ont un peu moins de respect, mais qui leur nuit si elle est fautive. Faites une faute d'orthographe dans un curriculum vitae, faites une faute d'orthographe, d'ailleurs on dit une faute, pas une erreur, quand oui. Vous présentez un PowerPoint dans une conférence, vous allez voir.
Et oui, et non seulement cela, on écrit beaucoup de mails aujourd'hui, on parle des nouvelles technologies, on parle d'Internet, etc. Et les mails, il vaut mieux, même dans les mails, ne pas faire de faute d'orthographe. C'est parce que, effectivement, ça travestit. Mais justement, dans ma question, il y avait aussi ça, Bernard Cerchilini. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, justement, est-ce que ça ne traduit pas le fait qu'il n'ait pas songé à la remplacer, qu'on ne songe pas aujourd'hui à faire autre chose ? D'ailleurs, dans les télévisions de service public et même ailleurs, qu'il n'y ait pas et cette espèce de bagarre, de lutte pour la langue française, encore une fois. On a l'impression que, je ne dis pas qu'on a abandonné le terrain, mais que quand même, bon, ce n'est pas la priorité, donc voilà.
Alors, d'abord, la défense de la langue paraît ringarde.
Ah oui, c'est fou ça.
Sottise, car,
mais d'où ça vient ça Michelet, Bernard, d'où ça vient que la défense du français de la France, enfin de la langue française, paraît ringarde ? D'où ça vient ça, à votre avis ?
Oh, bien, pas de raison. Certains font les yeux doux à l'Atlantis, mais et alors en anglo-américain. Disons que peut-être qu'elle a été défendue de façon un peu traditionnelle, un peu puriste, cette langue, vous voyez ce que je veux dire.
Ouais.
On ne va pas défendre le français avec bijoux, choux, cailloux. Je crois personnellement, d'ailleurs, je suis par exemple pour la simplification de l'orthographe, pour qu'on mette un S à bijoux, choux, cailloux, et puis on fait gagner du temps aux enfants. Il y a ça. Et j'y reviens, il faut enseigner l'orthographe. L'orthographe est peut-être survalorisée socialement, mais c'est un fait. Il faut l'enseigner. Or, l'orthographe française est complexe. Pour des raisons historiques, elle est complexe, on ne la changera pas. Il y a beaucoup d'homonymes en français et d'homophones qu'il faut distinguer, ainsi de suite. Donc, le service public, par son école publique, par sa télévision et sa radio, doivent aider à un enseignement plus intelligent, mais il doit aider à l'enseignement de l'orthographe. Vous voyez ? C'est important. On ne fera pas une simplification phonétique de l'orthographe. On va la maintenir telle qu'elle est pour des tas de raisons. On peut la régler à la limite, mais il faut continuer à enseigner. Or, il se trouve que il y a bien longtemps, j'ai dirigé l'enseignement primaire et j'ai donc rédigé les programmes pour mon ministre, qui était Jean-Pierre Chevènement à l'époque. Et j'ai bien vu que par rapport à l'école de Jupéry, on enseigne beaucoup d'autres choses à l'école, c'est bien.
Oui, bien sûr.
La biologie, l'informatique. Et donc la part laissée à l'orthographe a été réduite. Donc il faut bien, d'une part, un enseignement encore plus intelligent, et je rends hommage aux maîtres et aux maîtresses, et d'autre part, d'autres voies. Il faudrait.
Les autres voies, Bernard Cerchini, c'est bien ça. Les autres voies, ce serait justement, comme la vôtre, mais aussi, comme les chiffres et les lettres, une bonne émission à la télévision qui parlerait, qui ferait aimer et encourager la langue et l'orthographe.
Ben, je vous remercie, mais j'ai fait beaucoup d'émissions sur l'accord du participe passé. Ben avec le sourire, j'ai fait une émission intitulée Les femmes qui se sont succédées se sont souvent haïes. J'ai l'accord avec les pronominaux. On peut, avec le sourire, expliquer ces points qui sont importants et qui sont délicats. Et donc là, c'est vraiment la République a pour langue le français. Elle a pour mission d'enseigner le français. Le français, c'est ce qui fait la France, disait Michelet. Elle doit utiliser tous les moyens, un enseignement plus rationnel, l'école, bien sûr, l'école. Et on a cessé de grignoter le nombre d'heures consacrées au français, je le regrette. Et puis d'autres voies, et l'audiovisuel est fondamental. On peut faire des émissions plaisantes, agréables, pleines d'agréments, qui enseignent l'orthographe grammaticale. Les accords, par exemple, c'est fondamental. Distinguer l'infinitif du participe passé, vous devez le faire, sinon vos textes sont incompréhensibles.
Bien sûr. Et c'est pour ça que vraiment, vraiment, que le service public y pense. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et j'aimerais que, si je dis Ariane, ma sœur, de quel amour blessé, vous mourûtes au bord, vous fûtes laissée, eh bien que l'orthographe de laissée soit enseignée. Eh oui. Merci Bernard, c'est le cas de le dire. Merci Bernard Cerchini. Voilà. Et à très bientôt. Merci.
Merci beaucoup Bernard Cerchini pour être revenu sur la fin des chiffres et des lettres. Et restez bien avec nous, car tout de suite nous recevons Dora Mouto et Marguerite Stern pour évoquer leur livre Transmania. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Mont-de-Marsan
94.1.
Sud Radio.
De mon amour, je te donne la totalité. Mes arrivées, mes départs, la dualité.
De mes virages, mes ratures, quand j'envisage en démesure. De mes douleurs, de mes joies, la réalité.
Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais je vais tout tenter, et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité.
De tout mes temps. tort, je te donne la totalité. Tous mes défauts, j'en ai pas en réalité.
Tous mes mensonges, mes humeurs, tous mes envols, être ailleurs. Je suis sûr de mes doutes, la complexité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais je vais tout tenter et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais je vais tout tenter et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité.
Sud Radio.
Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de danse. Et s'il ne reste plus rien du tout.
radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Il y a exactement deux semaines, lundi, donc, nous recevions Dora Mouto et Marguerite Stern pour leur essai Transmania. Nous avions consacré une heure à cet essai qui est paru aux éditions Magnus et qui contenait beaucoup de choses intéressantes. En tout cas, on était heureux et on l'est toujours de les recevoir. Et Mamma Mia, le tsunami, ça sort, et puis ça y est, c'est le volcan, c'est l'explosion, et j'ai dit, d'ailleurs j'ai envoyé à l'une d'entre vous en disant, de toute façon vous avez gagné, parce qu'on en parle, et vous le savez très bien, l'adage, qu'on en parle mal, quand on en parle bien, on en parle, sauf, quand il y a des menaces, quand il y a de la violence, quand il y a des choses comme ça, ça ne va plus. La liberté d'expression, ce n'est pas un match où on donne des lions à manger aux chrétiens ou des chrétiens à manger aux lions. C'est pas ça, hein. C'est la discussion. La moindre des choses, vous n'êtes pas d'accord, vous discutez. On en parle tout de suite.
Sud Radio, André Berkov.
Ça balance pas mal.
Berkov, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité.
Oui, Michel Sardou, femme des années 80, oui. Mais on est en 2024. Et en 2024, ce n'est plus le problème. En tout cas, c'est le problème. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'un trans? Eh bien voilà, il y a eu donc ce livre, il y a des projets de loi qui sont déposés, il y a énormément de choses. On va en parler avec Dora Mouto et Marguerite Stern, parce que ce livre a mis, entre autres, le feu aux poudres. Vous dites le feu aux poudres, mais comment? Eh bien, écoutez ce qui s'est passé hier. Il y a eu des dizaines de manifestations contre la transphobie. Transmania, c'est pas un livre transphobe, elles en parleront. Mais il y a eu ceci, écoutez.
Leur but, c'est de génocider les personnes trans.
De plus en plus, on a une offensive anti-trans qui est en train de se faire partout dans le pays. À l'Assemblée nationale, au Sénat, on a des textes de loi qui sont amenés, des textes de loi qui vont probablement et peut-être être votés. On a une culture anti-trans qui est en train de se mettre en place en France avec des livres, avec des personnes qui font pression, avec des groupes de pression qui sont en place absolument partout.
Ce rapport préparait même de punir les médecins qui aideraient les personnes trans mineures à faire des transitions. Ce rapport demande aussi le rétablissement des thérapies de conversion pour les personnes trans en France.
C'est un contexte fascisant qui fait que même si ils s'attaquent à des minorités, pour le moment, ça va devenir de plus en plus grand et on va avoir un contexte de plus en plus radical qui va ne plus laisser la place à personne.
Alors, avec des livres, contexte fascisant. Alors, Dora Mouto, Marguerite Stern, alors, vous contribuez à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis la sortie du livre, il y a beaucoup de réactions du monde trans et du monde institutionnel aussi. Déjà, quand on a eu des publicités dans Paris, les publicités ont été décrochées par JCDECO qui a reçu un ordre de la mairie de Paris. Ensuite, nous donnons une conférence demain à Assas et il y a Yann Brossard.
Demain mardi, c'est ça? Demain mardi?
Oui, demain, non, ce soir, en fait. En fait, c'est ce soir.
Ce soir, oui, d'accord. Voilà. Oui. Lundi à Panthéon Assas, absolument. Par la cocarde,
ce soir,
oui.
Exactement. Et il y a Yann Brossa et certains autres de son clan communiste qui ont demandé au préfet de Paris de faire annuler la conférence. Et puis, par-dessus le marché, hier, il y a eu des manifestations dans plusieurs villes de France contre ce qu'ils appellent l'offensive anti-trans. Mais en réalité, c'était contre notre livre et contre le projet de loi des Républicains pour faire bloquer les transitions des enfants.
Alors justement, d'ailleurs on a entendu Dora Mouto au fond du Rhin, hein, à Strasbourg, hein, on vous donnait un Marguerite Stern, j'imagine aussi qu'on veut vous noyer un peu. Alors Marguerite Stern, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que il y a une espèce de réaction qui consiste à dire que de votre livre est transphobe. Or, est-ce que votre livre est transphobe?
Non, notre livre n'est pas du tout transphobe. En fait,
Il se trouve que ces militants actuellement disent que tout est transphobe. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que vous avez le malheur de dire que les femmes sont des femelles et que les hommes sont des mâles, on vous dit que vous êtes transphobe. Donc c'est sûr qu'à partir de ce postulat, ils considèrent que notre livre est transphobe. Notre livre n'est pas transphobe, il n'y a aucun appel à la haine, aucune menace, aucune insulte, aucune violence à l'encontre des personnes trans. Bien au contraire, c'est des personnes qu'on a essayé de comprendre vraiment. On a essayé d'analyser les raisons de leur transition. Voilà, on décortique tout ça, on décortique aussi, et c'est ce qui ne plaît pas du tout, tout le système, hein, c'est-à-dire la façon dont l'idéologie transgenre s'infiltre dans les universités, dans les écoles, dans les médias, dans les grandes entreprises. Et donc, c'est en ce sens-là qu'on parle d'idéologie, d'ailleurs, et c'est souvent ce qui déplaît. Mais on a encore le droit d'analyser un système.
Bien sûr. Et je rappelle aussi que ce qui a aussi beaucoup déplu, je vous le dis parce qu'après l'émission, nous avons vu le nombre de réactions, c'est quand vous avez parlé aussi, il faut le dire, de ce qu'on peut appeler quand même le business, ou en tout cas le fait que une transformation peut coûter de 100 à 125 000 euros, entièrement remboursée par la Sécurité sociale. Et je dois dire que ça a provoqué beaucoup de réactions quand on sait ce que coûtent des changements, des opérations dentaires ou des opérations à l'œil, aux yeux, etc., aux lunettes. Dora Mouto, est-ce que il y a ça aussi qui est, c'est-à-dire il y a en fait dans ce que vous décrivez, il y a une idéologie et il y a aussi quand même, il y a aussi l'argent, enfin un business qui est en jeu.
Oui, exactement. Enfin, en fait, dans le livre, on parle de ce business. On explique que le business de la transition hormonale vaut à peu près 1,6 milliard de dollars. Et ça, ce sont voilà des cabinets d'études qui le disent. Donc, il y a un certain nombre de labos pharmaceutiques ou des gens du secteur, voilà, des entreprises du secteur médical qui sont effectivement intéressés par le fait que des gens transitionnent. Et plus les gens transitionnent tôt, plus ils vont en fait être addicts aux hormones pour le reste de leur vie. Donc effectivement, c'est un business assez juteux. Et puis il y a des entreprises qui investissent dans des jeunes startups. Il y a cette startup qui s'appelle Plume, où ben voilà, un fonds d'investissement a injecté 24 millions. Donc oui, ouais. C'est un business comme un autre après tout.
Alors effectivement, ça pose problème, c'est-à-dire que au fond, qu'il y ait de la polémique, qu'il y ait de la discussion, c'est tout à fait normal, et chacun peut avoir son avis là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un vous a envoyé effectivement un soutien qui n'est pas un soutien mince, c'est J.K. Rowling. J.K. Rowling, je le rappelle, c'est l'auteur de Harry Potter. Harry Potter, effectivement, un des best-sellers les plus importants de l'histoire du livre, hein. Je ne parle pas de littérature, mais enfin, Harry Potter, tout le monde sait ce que c'est. Et on se rappelle que J.K. Rowling n'a pas été invitée aux 20 ans d'Harry Potter de sa propre création, parce qu'elle dit un homme est un homme et une femme est une femme. Et elle vous a dit ceci: en tant que personne dont la mort a été réclamée sur des pancartes exactement pour la même raison, j'envoie Dora Mouto et Marguerite Serre mon affection et mon soutien. Voilà. Et d'ailleurs, elle parle de Strasbourg. Strasbourg est la ville de mes ancêtres maternels. Il y a une longue histoire d'invasion par des despotes. Mais au fond, est-ce que vous avez été... Alors, je voudrais revenir, soyons factuels. Vous avez été menacé directement, personnellement?
Bah, oui, il y a eu cette vidéo-là. Il y a eu cette vidéo où on voit des centaines de personnes défiler en appelant à jeter Dora Mouto au fond du Rhin. Moi, il y a des gens qui ont défilé avec une pancarte qui représente ma décapitation. Des gens qui ont hurlé aussi les fachos au feu, Stern au milieu. Il y a eu aussi des tags, une TERF, une balle. Donc, je rappelle ce que c'est qu'une TERF. Les TERF, ce sont des... Trans exclusionnaire radical féministe, donc littéralement les féministes radicales qui oui. excluent les personnes trans. Voilà, ça fait partie de tout le vocabulaire folklorique oui. de ces gens-là. Donc on appelle clairement à nous mettre une balle dans la tête, hein, puisqu'on sait qui sont les TERF en France. Et ces insultes pour nous et ces menaces, hein, menaces de mort, elles sont pas nouvelles. Nous, ça fait 4 ans qu'on subit ça. Sur le site internet de notre association Femeliste, donc c'est femeliste.com.
Femeliste, oui.
On a mis toutes les preuves en fait du harcèlement et des menaces qu'on subit. Et si vous vous rendez sur ce site, vous verrez que des menaces de mort, il y en a eu bien d'autres. Menaces de mort, pourquoi? Parce qu'on a le malheur de rappeler en tant que féministe que être une femme est une réalité biologique, qu'on ne peut pas changer de sexe quand on est un être humain, que le sexe est immuable et que les femmes trans sont des hommes. Et voilà.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas, au-delà donc, de vous et de votre livre, mais je voudrais avoir vos sentiments là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas aussi, est-ce que les trans ou les LGBTQI ne dénoncent pas une situation de fait où, quelque part, elles sont aussi soit persécutées, soit elles-mêmes poursuivies, etc. Et je parle encore une fois, au-delà de votre livre, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de sentiment de persécution? Est-ce qu'à votre avis, il doit avoir lieu? Est-ce qu'il est là ou pas?
Bien sûr, bien sûr. Enfin, on n'a jamais nié que les personnes transgenres peuvent subir un certain nombre de discriminations. Mais faut revenir sur Terre et il faut savoir qui, en fait, agresse les personnes trans et qui, et les quelques fois où elles ont été tuées en France, ce sont par des hommes. C'est absolument pas par des féministes. Donc, et ça, évidemment, ils le disent pas. Ils n'expliquent pas en détail qui sont les gens qui tuent les personnes trans, souvent, en réalité, dans des contextes de prostitution. Donc, il y a un peu une omerta sur la véritable violence que ces gens la vivent.
Ouais. Et effectivement, on peut se poser des questions justement sur des idéologies ou des intégrismes très divers qui peuvent se rencontrer là-dessus et qui sont pour le moins paradoxaux, effectivement. Vous avez demandé une protection policière ou pas ?
Oui, aujourd'hui, oui, pour la conférence à Assas, on va avoir une protection policière.
Ah oui, d'accord. Et en fait, vous allez quand même continuer, vous allez vous battre parce que le livre marche, je crois, très bien. Il est en tête des ventes sur Amazon. Et d'un autre côté, effectivement, encore une fois, la polémique fait au contraire. Ce que les gens qui vous en veulent ne voient pas, c'est que plus ils font de la polémique et plus de l'accusation, plus les gens vont s'intéresser, en tout cas, à la lecture du livre. Soit pour le rejeter, soit pour, au contraire, y adhérer. Parce que vous dites un certain nombre de choses. Mais Marguerite Stern de Ramuto, vous allez continuer, vous n'allez pas vous arrêter là?
Évidemment qu'on va continuer, enfin, la question ne se pose même pas pour nous. Et on estime que justement, à partir du moment où on reçoit des menaces de mort, à partir du moment où on est censuré parce qu'on énonce juste des réalités biologiques, en fait, c'est qu'il y a un problème, il y a un problème de liberté d'expression, il y a un problème aussi dans le camp d'en face, hein, qui est le camp transgenriste, où on remarque en fait, il y a toute une masse de personnes en fait qui est aujourd'hui dans l'incapacité d'accepter qu'on puisse avoir des opinions qui ne sont pas les leurs. Et en fait, nous, on se bat pour ça aussi aujourd'hui, en fait, pour la liberté d'expression, pour la pluralité des idées. On pense que c'est vital pour une démocratie, et en ce sens-là, on estime avoir un rôle à jouer.
Alors, dernière question que je vous pose, c'est: que pensez-vous du rapport sur la transidentification des mineurs rédigé par le groupe des Républicains au Sénat, qui est une proposition qui va être examinée, proposition de loi qui va être examinée le 28 mai en séance publique, hein, le groupe Les Républicains. Et il y a autre chose aussi, il y a effectivement une proposition de loi de la députée RN Joëlle Mélan visant à protéger les mineurs contre certaines pratiques médicales et chirurgicales. Je voulais savoir ce que vous pensez de ces deux projets de loi.
Le projet de loi est, en tous les cas, moi j'ai lu le rapport des Républicains qui a été mené par Jacqueline Eustache-Brignaud. Elle a fait un travail sur plus d'un an, hein, donc c'est vraiment un rapport très conséquent, extrêmement documenté. Elle a reçu beaucoup de personnes en audition, y compris des personnes qui sont pour donner des bloqueurs de puberté aux enfants. Enfin, vraiment, elle a fait ce travail-là d'écouter tout le monde. Ouais. Et puis, elle est arrivée finalement à des conclusions similaires aux nôtres. C'est-à-dire que, les transitions médicales pour les enfants, en fait, ça pose un certain nombre de problèmes médicaux, en fait, pour les enfants, de problèmes de santé. On le voit aujourd'hui dans des pays comme la Suède, la Finlande, le Royaume-Uni, où on a arrêté de faire ça. Et on voudrait que la France s'aligne sur ces pays-là qui ont essayé, qui ont vu que ça donnait des catastrophes et qui ont décidé d'arrêter. Donc évidemment, on soutient ce projet de loi.
Et Dora Mouto, pour le projet de loi visant à protéger les mineurs contre certaines pratiques médicales et chirurgicales en matière de transition de genre, vous en parlez aussi dans votre livre?
Oui, évidemment. Après, le rapport du RN, pour être honnête, on l'a pas encore examiné, donc je pourrais pas en dire plus là-dessus.
D'accord. Écoutez, en tout cas, tenez-nous au courant. J'espère que ça va bien se passer à Panthéon Assas pour vous. Et je pense quand même que oui. Et puis encore une fois, je rappelle quelque chose de très simple. Que vous soyez pour, que vous soyez contre, il est impensable de vouloir arrêter un débat de vouloir casser, de vouloir de dire non, on ne discute pas avec. Oui, quand ce sont des appels à la haine, oui, quand ce sont des appels au racisme, et simplement, là, quand il s'agit d'un débat sur un sujet extrêmement important, effectivement, eh bien, débattez, confrontez les idées, ne confrontez pas les armes. Il faut toujours préférer les armes de la parole à la parole des armes, parce qu'on sait ce que celles-ci deviennent. Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup Dora Mouto et Marguerite Stern. Et restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite pour les Perlues et Bravo de André Bercoff. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Toulouse 101.8 et en DAB+.
Sud Radio.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états.
Eh bien, moi, j'aime les perles, surtout quand elles sont prononcées de manière sincère, brute de décoffrage et tellement révélatrice de tout.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états, les perles du jour.
Plus je t'entends, plus je te vois et plus je t'aime. Plus je t'entends, plus j'aime entendre ta voix. Tu dis des mots, encore des mots, toujours les mêmes. Tu dis parfois, tu dis souvent n'importe quoi.
Eh oui, Alain Barrière, et oui, je suis sûr que si vous aviez entendu avant-hier Valérie Ayé, vous auriez tombé amoureux d'elle. C'est évident. Moi, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais voilà, c'est tellement ça. Elle a tout compris. Elle nous dévoile le réel. Et c'est pour ça que c'est très important, les gens qui dévoilent le réel. Écoutez, elle était face à Jordan Bardella, je crois, et voici ce qu'elle disait.
Les punaises de lit même, ça peut prêter à sourire, mais c'est aussi l'ingérence du Kremlin.
Alors ça c'est vrai. Ça c'est vrai, on n'avait pas, vous savez, on avait discuté de ça, mais on n'avait pas la sûreté, on n'était pas sûr que les punaises de lit étaient l'ingérence du Kremlin. Mais voilà, Valérie Ayé, je rappelle, tête de liste Renaissance aux élections européennes, nous l'affirme. Et comment douter de la parole de Valérie Ayé? Bien sûr, d'ailleurs, Valérie Ayé, pourquoi vous, les rats, c'est l'ingérence du Kremlin, bien sûr. Les barrages dans Paris, c'est l'ingérence du Kremlin, bien sûr. Le prochain virus, d'ailleurs dans virus, il y a russe, ne l'oublions pas. Donc là aussi, c'est l'ingérence du Kremlin. C'est sûr, non mais c'est très important de dire les choses, surtout quand on sait, quand on a la preuve que ces choses-là sont effectivement causées par tel ou tel ennemi de l'intérieur ou de l'extérieur. Voilà, donc aujourd'hui, les punaises de lit sont envoyées par le KGB. D'ailleurs, elles portent un signe. J'ai eu ça il y a 5 ans, les punaises de lit, il y a 5 ans. Oui, c'était avant l'invasion, effectivement, de l'Ukraine. Mais j'ai vu qu'elles portaient un signe. Et maintenant, grâce à Valérie Ayé, je sais que ce signe est poutinien.
Moi, je voudrais vous dire merci. Merci pour ce que vous faites. Merci pour visibiliser comme ça les combats que vous menez. Merci de percuter aussi une société qui est très hétéronormée, très calibrée sur des réflexes et sur des impensés. Et vraiment, ce que vous faites, le travail que vous faites, toutes les dragues, enfin tout ce travail là, c'était un travail de transformation de la société en profondeur. Et merci pour ça, parce que vous êtes un signe de libération, d'émancipation, et je suis sûre que vous êtes un modèle pour bien des gens, donc, et des jeunes, et vraiment aux homophobes, aux LGBTQIA+ phobes, vraiment, passez votre chemin.
Alors, je veux juste vous voir à l'appareil. Merci beaucoup, je suis ultra honoré d'être sur ce plateau avec vous quand je vais apprendre que vous serez sur le plateau. Sandrine Rousseau, c'est un peu
là, c'est Sandrine Rousseau, ce n'est plus Valérie Ayé hier. C'est Sandrine Rousseau qui remercie effectivement la personne, le drag queen qui va porter la flamme olympique bientôt à Paris. Et voilà, elle remercie. Et c'est bien, c'est là, encore une fois, là aussi, le réel. Encore, comment elle remercie? C'est-à-dire que vous rappelez, c'était Aragon chanté par Jean Ferrat qui disait « La femme est l'avenir de l'homme ». Non, 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 Jean Ferrat, c'est fini, ça. Ça, c'est vieux, c'est démodé, c'est ringard, on sait. Non, 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 c'est la drague qui est l'avenir de l'homme. C'est la trans qui est l'avenir de l'homme, ou le trans qui est l'avenir de l'homme, ou d'ailleurs de la femme. Donc, c'est fini. Les hommes et les femmes, il faut bien comprendre, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est le mélange des genres. Et c'est ça qui est beau. Et qui nous la proclame? Et c'est magnifique parce que elle remercie Sandrine Rousseau. Elle le dit. Voyez, vous bousculez la société. Vous nous annoncez l'avenir. Vous nous annoncez l'avenir. Et c'est bien. Plus de papa, plus de maman, plus de tout cela, plus de cette espèce de biologie qui nous encombre, qui ne sert à rien. Vivre! Rappelez-vous, Sandrine Rousseau nous avait dit, demain, ce sera les hommes déconstruits. Je vis avec un homme déconstruit. J'en suis très heureuse. Et oui, mais n'arrêtons pas à la déconstruction. Allons à la démolition. Voilà, Sandrine Rousseau, il y a deux siècles, et plus de deux siècles, Jean-Jacques Rousseau écrivait de l'éducation. Eh bien, Sandrine Rousseau, ça, c'est qui peut-être une lointaine, arrière petite fille, écrit quoi? La démolition, la transformation. Oui, c'est ça qui est beau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Les restos du cœur, hein? Les restos du cœur, oui, on parle de cela juste parce que il y avait une réunion, il fallait une prise de parole d'un rassemblement, du Rassemblement National, et il y avait une dame, une femme qui s'appelle Colombe et qui a répondu aux questions du journaliste Paul Larouturoux de TF1, du journaliste de TF1, qui l'interrogeait à l'entrée du meeting de Jordan Bardella. C'était à Perpignan. Hein. Et voici, alors il l'interrogeait, et voici ce qu'a dit Colombe.
Qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui, madame ?
Écoutez, je viens écouter quelqu'un qui a ses convictions et je vais essayer de trouver les miennes. Et ça fait des années que je la suis et je trouve que c'est une dame qui a une grande prestance et qui est combative.
Vous pouvez enlever vos lunettes ?
Oui.
Ah oui, non, vous pleurez. Qu'est-ce qui vous fait pleurer ?
Qu'est-ce qui me fait pleurer ? Parce qu'on est arrivé dans un monde de fous et il faut absolument qu'on trouve des solutions. Parce que... Regardez, moi je suis un RSA et on a du mal à vivre. On a du mal à vivre, on ne peut pas payer les factures, on a les huissiers, on a les menaces de tout. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui ressort sur ce système de dire « Allez, suivez-moi et on va combattre ». Ici, on a quand même un taux énorme du RN et on est tous en colère, on a tous du mal. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'usine, il y a des combats à mener. Hein, que ce soit pour la santé ou que ce soit pour le travail. Je suis conseillère en insertion professionnelle et au jour d'aujourd'hui, je ne trouve pas de travail, mais je suis bénévole au Resto du Cœur et j'aide les gens de la rue.
Voilà. Un résumé, un miroir d'une certaine France. Il est là. Pas une question au-delà du RN, etc. Pourquoi elle est là ? Attendez, elle est bénévole au Resto du Cœur. Elle vit du RSA. Elle en peut plus, comme des millions de Français qui sont dans ce cas. En tout cas, ils sont très, 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 très nombreux. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il paraît, on a essayé de les avoir, mais on ne les a pas eus, les directions des Restos du Cœur. Elle a été écartée du Resto du Cœur, alors que RSA, elle est bénévole pour distribuer de l'alimentaire par les Restos du Cœur. On ne va pas faire parler Coluche, hein, mais on se demande ce que dirait Coluche aujourd'hui, hein, quand il voit ça. Colombe au RSA, Colombe qui n'a plus de quoi vivre, ou presque, et qui pleure parce qu'elle ne trouve plus à rien. C'est normal, ça ? C'est normal ? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est un cri, c'est plus qu'un cri, ça. C'est un cri qui devrait interpeller tout le monde, à gauche, à droite, en haut et en bas, et arrêter cet enseignement du mépris. Hein, sous les bons sentiments, hein, du politiquement correct et de l'éthiquement correct. Et occupez-vous de Colombe au lieu de vous occuper de choses dont vous n'avez que faire et sur lesquelles vous n'avez aucune prise.
Restez bien avec nous tout de suite. Le face-à-face d'André Bercoff avec Jean-Luc A, ancien parachutiste du 8e RPIMA et ancien agent à la DST en 1972 au contre-espionnage, auteur de Un rebelle à la DST, 15 ans d'affaires sensibles aux éditions Plomb. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff. Sud Radio Mazamé
104.1
Sud Radio.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. I only see my goals, I don't believe in it.
cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before. Old. Our songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can warm me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can warm me? Soon I was 7 years old. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Sud Radio.
Sud Radio.
Toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie, la symphonie des éclairs.